civisme et droit du citoyen pour connaître ses droits, maîtriser ses devoirs et ses obligations.
Est-ce que les gens naissent égaux en droit, à l'endroit où ils naissent ?
Civisme et droit du citoyen, une émission pour un développement endogène du citoyen et de la société. Civisme et droit du citoyen, une émission de la web radio Awevi présentée par Spiro Maoulé.
Est-ce que les gens naissent pareils ou pas ?
Soyez au rendez-vous tous les mardis à 17h, rediffusion tous les dimanches à 14h. Arwevi Info, l'information comme si vous y étiez.
Bien chers auditeurs de Awevi Info, nous voici à l'heure de notre émission Civisme et droits du citoyen. Civisme et droits du citoyen, c'est une heure pour comprendre, maîtriser et avoir des informations sur le droit, la citoyenneté et le civisme. Civisme et droits du citoyen, c'est votre rendez-vous quotidien pour vous permettre de mieux appréhender la chose juridique. Demandons aux citoyens d'être civiques, d'être de bons citoyens. Et c'est en cela que notre émission s'avère utile, puisque nous voudrions éduquer le commun des citoyens pour que les choses se fassent conformément aux règles, aux normes, à la citoyenneté, à la moralité. Et donc, il est normal, si nous demandons cela aux citoyens, que nous puissions demander également aux gouvernants d'être vertueux, d'être généreux envers les citoyens. Les gouvernants dont nous parlons, ce n'est pas seulement les membres du gouvernement, mais aussi et surtout toutes les personnes qui détiennent le droit de commander et de décider au nom de l'intérêt commun. Il s'agit alors de tout citoyen usant du pouvoir administratif ou contractuel de décider pour autrui, d'agir pour autrui et sur autrui. Car comme Montesquieu le craignait et le disait en son temps, et qui s'avère être une vérité, tout homme qui a du pouvoir est tenté d'en abuser. Et il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Dans son ouvrage écrit en 1791, Montesquieu disait déjà que dès lors que l'homme a un pouvoir, si on ne le contrôle pas, si on ne contrebalance pas ce pouvoir, il peut, il veut, il sera tenté d'abuser de ce pouvoir-là. Il va se croire tout important. Il va se croire incontournable. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime à rappeler que dans l'Antiquité, ou même avant ça, quand on parlait de la monarchie puissante des pays d'Europe, le roi avait quand même un contrepoids de poids. Et c'est sa foi, sa croyance en Dieu. Parce que à l'époque, la papauté était forte. Et si le roi commençait par brimer son peuple, il peut être excommunié. Et s'il est excommunié, il n'est plus protégé par rapport à son peuple qui sait maintenant que son roi n'a plus de protection divine. Et donc, les monarques, à l'époque, respectaient les principes et les règles de gouvernement ou de gouvernance en craignant la force du pape. C'est d'ailleurs à cette époque où on a sorti des adages comme « Qui veut le pape va à Rome ». Et donc, même quand on va dans nos religions, dans nos pays traditionnels en Afrique, les rois avaient des règles qui étaient fondées sur la nature humaine, qui faisaient que le roi sait ce qu'il doit faire et ce qu'il doit s'abstenir de faire. Aujourd'hui, même quand vous prenez un concierge, un planton, je dirais même quand vous prenez un garçon et que vous lui dites « désormais c'est toi qui dois ordonner un certain nombre de choses à la maison ou à l'école », si vous ne faites pas attention, ce garnement-là risque de se trouver très important au point qu'il va commencer par abuser de son pouvoir. Il faut donc un contrepoids. Il y a même un prêtre qui me disait aujourd'hui, qui nous disait que parfois même, ceux qui sont instruits par Dieu pour avoir des dons de guérison, à un moment donné, ils pensent que c'est eux-mêmes qui sont en train de guérir. Et il n'y a plus Dieu dans leur histoire. Ça devient un commerce personnel. Et ils commencent par se prendre plus puissant que Dieu. En tout cas, se considérer comme incontournable. Le pouvoir saoule, dirait quelqu'un. Le pouvoir monte très vite à la tête. Vous avez un gouvernant. Un gouvernant, c'est-à-dire une autorité publique ou un agent public, et qu'il n'y a aucun frein, aucune limite à son pouvoir, il est clair qu'il va abuser de ce pouvoir-là. Ainsi, dans un État qui se veut respectueux de sa population, l'organisation du pays doit prévenir tout ce qui est un abus ou un détournement de pouvoir. Prévenir au sens où il doit l'interdire, il doit mettre sur pied des règles qui feront que quand quelqu'un a un pouvoir, il y a forcément un contre-pouvoir, de manière à ce que les deux fonctionnent sans que l'un ne brime sur l'autre. Les institutions doivent prévoir d'abord et les hommes vertueux vont respecter ensuite. Parce qu'on est tenté de dire, oui, mais même parfois il y a des tests, mais on ne respecte pas. Mettez sur place d'abord les institutions. Mettez sur place les règles. Et il y aura à un moment donné des hommes vertueux. Des hommes qui craignent la nature, qui craignent les règles de la nature et qui voudraient bien appliquer les principes tels que fixés. Ils ne sont pas si rares à trouver. C'est juste une question d'éducation. Si nous éduquons nos enfants à respecter les tests dès leur enfance, quand ils grandiront, ils respecteront les tests de la cité. Et les tests de la cité doivent faire en sorte que chacun ait une limite à son pouvoir. Mon pouvoir ou ma liberté s'arrête quand la liberté ou le pouvoir de l'autre commence. C'est de cette façon-là uniquement que nous pourrons tous vivre ensemble. La loi de la jungle ne permet pas de vivre ensemble. L'absence de respect l'un envers l'autre ne permet pas de vivre ensemble. Nous ne cesserons jamais de le dire dans Civisme et droits du citoyen, que tout citoyen doit respecter les normes, doit respecter l'autre citoyen. Nous allons donc au cours de notre émission garder notre principe de départ. Et nous allons définir d'abord la notion d'abus de droit. Puis, ça nous permettrait de parler de l'abus de pouvoir. Et nous verrons ensuite les différentes formes d'abus de pouvoir. Avant de terminer avec la sanction pénale de cet abus qui doit être proscrit pour le bien vivre, pour le vivre ensemble. Take a chance, 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 take la notion d'abus de pouvoir est une extension ou une application de la notion d'abus de droit. Il est donc important de parler de l'abus de droit avant de parler de l'abus de pouvoir. L'abus de droit a trouvé une plus grande place dans le droit avec une affaire qui a commencé en 1795. Une affaire qui a connu un tournant avec un arrêt célèbre que très souvent tous ceux qui ont fait une étude à l'université, à la faculté de droit connaissent, l'arrêt Clément Bayard. Rapidement, je vous dis simplement dans cette affaire qu'il y a deux voisins. Il y a un qui fait des expériences de ballon dirigeable, ce que nous appelons communément les montgolfières. Et le voisin, voyant d'un mauvais œil cette expérience, a entassé des carcasses de bois pour clôturer son terrain et a mis dessus des tiges pointues, des tiges de fer pointues, de manière à ce que quand le ballon de son voisin va descendre, que ça puisse se crever. Et quand on lui a dit, il a dit qu'il a le droit de clôturer sa propriété. C'est son droit de clôturer sa propriété. Et alors, les juges avaient dit, oui, tu as le droit, mais tel que tu as protégé ta propriété, ça donne l'intention, ça montre ton intention de nuire à ton voisin parce que les tiges pointues n'étaient d'aucune utilité. Si à 16 mètres, tu dois encore mettre des tiges pointues, c'est clair que c'est contre les ballons dirigeables de ton voisin. On a commencé par parler de l'abus de droit. Et il y a eu d'autres affaires qui sont allées dans le même sens, consacrant ainsi la notion d'abus de droit. En son temps, Voltaire disait déjà que tout droit poussé trop loin conduit à une injustice. Aussi, peut-on dire qu'il y a abus de droit chaque fois que l'exercice d'un droit subjectif reconnu, que l'accomplissement d'une prérogative inhérente à ce droit, que l'acte découlant de ce droit, que l'usage qu'en fait le titulaire ou que la conduite manifestée dans l'exercice de ce droit présente un caractère malveillant, excessif ou abusif. Par conséquent, commet un abus de droit, quiconque outrepasse les limites de son droit, soit du fait de sa mauvaise foi ou de son intention de nuire, soit par suite de l'exercice anormal de ce droit, maladroit ou insouciant de son droit, et ce faisant, cause un dommage ou un préjudice à autrui. Et donc, chaque fois qu'il serait possible de montrer que dans la jouissance de votre droit, de façon malhonnête, de façon intentionnelle, de façon maladroite, vous avez créé, causé un préjudice à quelqu'un d'autre, on risquerait de vous taxer d'avoir fait un abus de droit. L'abus de droit peut résulter d'une action ou d'une abstention. Quoi qu'il en soit, ce qui constitue l'abus de droit est le dépassement des limites d'un droit d'agir ou de s'abstenir, lequel cause un dommage ou un préjudice en raison d'une conduite répréhensible eu égard à la portée légale de ce droit-là. Divers critères permettent d'établir l'existence d'un abus de droit. Par exemple, du point de vue de l'auteur de l'abus, c'est-à-dire de l'abuseur, l'intention de nuire à autrui peut permettre de détecter qu'il y a un abus de droit. L'absence de profit ou d'intérêt personnel à abuser de ce droit permet de dire qu'il y a abus de droit. Ou alors, du point de vue de la victime, le dommage ou le préjudice que lui cause l'exercice abusif du droit reconnu, mais refusé, même mesuré, permet de dire qu'il y a abus de droit. Donc, on peut voir l'abus de droit aussi bien directement de la part de celui qui outrepasse son pouvoir, son droit, ou alors du côté de celui qui subit cet excès de droit. La notion d'abus de droit a alors connu des déclinaisons ou applications au point qu'aujourd'hui, on parle d'abus de pouvoir. Le mot abus a été utilisé dans plusieurs autres sens. Abus de la minorité, abus des droits conjugaux, abus des pouvoirs, etc. Il y en a eu tellement. On peut parler aujourd'hui de l'abus d'autorité. L'abus de pouvoir correspond à l'exercice excessif d'un pouvoir résultant d'une position hiérarchique, d'une fonction ou d'un statut. L'abus de pouvoir, maintenant que nous en parlons, désigne le fait d'outrepasser ses droits et d'utiliser ses capacités en dehors du champ d'action qui est déterminé et donné à celui qui abuse de son pouvoir. L'utilisation anormale des pouvoirs obtenus grâce à une fonction constitue une faute. Et cette faute, ça peut être l'abus de droit, de pouvoir. Les différentes catégories de personnes qui peuvent être victimes de l'abus de pouvoir sont, entre autres, le citoyen. Il subira l'abus de pouvoir de l'État qui peut être commis par une autorité publique, un agent de l'État, une autorité publique. Un policier peut faire un abus de pouvoir. Un magistrat peut faire un abus de pouvoir. Un agent de la mairie, un agent de la préfecture, etc., etc. Sur les citoyens, ces personnes qui ont reçu une once de pouvoir peuvent exagérer, peuvent excéder, créant dans l'usage des services publics des abus que nous appelons abus de pouvoir. Donc, nous faisons mention des fonctionnaires et des agents publics. Mais on peut retrouver l'abus de pouvoir sur un enfant. L'abus de pouvoir parental qui est exercé par le ou les parents ou par le tuteur légal de l'enfant. Sur un salarié, on peut encore avoir un abus de pouvoir. L'abus de pouvoir de l'employeur ou d'un supérieur hiérarchique sur le salarié. Et d'ailleurs, cette notion d'abus de pouvoir de l'employeur ou du supérieur sur l'employé peut entraîner d'autres dérives, notamment le harcèlement sexuel, qui peut découler du fait que quelqu'un ayant une autorité cherche à profiter de cette autorité-là pour avoir des relations avec la salariée ou le salarié qui est hiérarchiquement inférieur à lui. Et donc, il y a plusieurs domaines dans lesquels, dès qu'il est établi que quelqu'un a un pouvoir, a un droit que la loi lui confère, que le contrat lui confère, que la vie en société lui confère, et que dans son utilisation, il en fait une utilisation excessive, maladroite, abusive et créant préjudice à une autre personne qui peut être un citoyen, un enfant ou toute autre personne. Cela nous conduit à dire qu'il y a abus de pouvoir et il faut pouvoir prévoir les mesures pour les arrêter ou pour dissuader ceux qui veulent en faire pour que le vivre ensemble puisse être agréable.
I'm coming out. take two eyes to make a pair. Brother, we can't quit until we get our share.
Maintenant que nous avons compris la notion d'abus de droit et que nous avons eu à relever l'existence de l'abus de pouvoir, il est important de ne pas mélanger les deux notions. C'est vrai qu'en réalité, les deux dénotent de la même nature. Il y a un pouvoir, il y a un droit dont on a abusé, c'est vrai. Mais les domaines d'exercice ne sont pas identique. Et il est important de clarifier la notion, de clarifier la différence pour que l'on soit très souvent dans la juste nature de ce que nous sommes en train de dire. En réalité, dans le droit du travail, on trouvera surtout l'abus de droit qui peut être l'abus du droit de licenciement ou de congédiement, qui consiste pour l'employeur à prendre appui déraisonnablement et de mauvaise foi sur son droit de licenciement pour l'exercer abusivement et justifier le renvoi. Donc, si l'employeur, en sa qualité de patron de structure privée, décide de renvoyer, on ne parlera pas vraiment d'abus de pouvoir, mais on parlera d'abus de droit, notamment abus de droit de licenciement. Dans le droit des biens, en matière d'exécution, constitue un abus du droit de saisie le fait pour le créancier de faire exécuter déraisonnablement une saisie. Le propriétaire foncier qui fait valoir de mauvaise foi son droit de propriété et qui crée des nuisances ou gêne ses voisins dans une intention malveillante ou qui leur cause un préjudice inacceptable par son insouciance, commet un abus, mais un abus du droit de propriété. Parfois même, surtout en matière de droit de propriété, cela peut être tout simplement le résultat d'une mésintelligence, d'une mésentente entre deux voisins. Et on va user abusivement de son droit de propriété pour gêner l'autre dans sa propriété. Il y a plein d'arrêts, plein d'affaires qui en donnent l'illustration. On retient par exemple seulement ici une jeune fille qui a planté des fougères juste du côté de sa maison, qui est à côté, qui est voisin. De côté qui est voisin à sa voisine, a planté des arbres juste pour que la lumière ne vienne pas dans la cuisine de sa voisine parce que les deux ne s'entendent pas. L'abus là, ce n'est pas un abus de pouvoir. Il s'agit dans ce cas d'un abus de droit, un abus de droit de propriété. En droit judiciaire, le plaideur qui intente une action frivole ou vexatoire, qui multiplie inutilement les mesures dilatoires et les dénonciations téméraires afin de nuire à autrui ou pour assouvir un besoin de vengeance personnelle, est coupable d'abus du droit d'agir en justice ou d'un abus de procédure. Vous avez par exemple certaines personnes qui sont tellement de mauvaise foi que même quand elles, ces personnes-là savent qu'elles vous doivent de l'argent, qu'elles savent qu'elles doivent vous payer, ces personnes vont s'amuser à créer des procédures judiciaires. Ces personnes vont d'abord aller voir un policier pour faire sortir une histoire qui ne tient pas debout, juste pour prendre tout son temps pour ne pas vous payer à temps. Si ce n'est pas fini avec le policier, il ira voir un huissier. Après, ça peut être un notaire. Après, ça peut être le juge. Si le juge finalement prend une décision, il va s'amuser à aller en appel, puis à aller à la cour de cassation, juste pour le plaisir de vous emmerder, excusez l'expression, juste simplement pour vous faire mal, pour vous perdre le temps. Mais c'est son droit. La loi lui reconnaît la possibilité de faire ces actions-là. Donc, il va abuser de ce droit-là juste pour vous faire mal. On ne parlera pas d'abus de pouvoir. On parlera d'abus d'agir, ou d'abus du droit d'agir en justice ou d'abus de procédure. Dans le droit de la famille, les parents qui peuvent utiliser illégitimement de leur droit de corriger leur enfant pour se rendre coupable d'un abus de droit parental de correction. On retrouvera ailleurs l'abus de droit contractuel qui se produit dans le cas de résiliation sans préavis, anticipée ou intempestive, fautive du contrat, d'exercice abusif de garantie, de rupture injustifiée de pourparlers, animée par une intention de nuire et opérée de mauvaise foi, avec une insouciance répréhensible ou de clause abusive. Et si on veut aller, on veut pousser encore pour, avec un dernier exemple, il y a l'abus du droit fiscal, qui est toute opération d'un contribuable visant à enlever, à éluder tout partie de ses obligations fiscales, tel le cas où il recourt à des montages ou à des combinaisons juridiques à la seule fin d'échapper, même indirectement, à l'impôt. Voilà quelques exemples où on parlera d'abus de droit. Le principe est identique. La loi confère à la personne des droits, mais la personne utilise ces droits-là de manière à faire mal à quelqu'un d'autre, de manière à excéder, à utiliser abusivement de ce droit-là. Nous avons dit, c'est l'abus de droit, pas l'abus de pouvoir. La notion d'abus de pouvoir est précise et elle concerne surtout le droit public. Et en la matière, il n'existe que 5 cas où un abus de pouvoir sera caractérisé. Et la loi va dire que c'est seulement le juge qui peut dire qu'il y a abus de pouvoir. Vous pouvez vous plaindre que quelqu'un a fait un peu trop contre vous. Vous pouvez vous plaindre et aller en justice pour réclamer l'utilisation ou pour réclamer qu'on ait à vous dédommager. Vous invoquerez peut-être l'abus de pouvoir. Mais il revient au juge seul de dire qu'il y a abus de pouvoir. En droit public, un abus de pouvoir signifie que l'autorité publique commet une illégalité que le juge administratif a sanctionnée. L'autorité publique, c'est l'administration. Que ce soit l'État, que ce soit les représentants de l'État, que ce soit les collectivités locales, que ce soit les établissements administratifs ou les établissements publics, industriels et commerciaux dans l'exercice d'une prérogative de puissance publique. cette autorité peut être amenée dans le cadre de ses pouvoirs qui lui ont été confiés à dépasser ce cadre-là. Que ce soit par ses actes, son inaction ou son comportement. Une ou plusieurs illégalités outrepassant le cadre de ce qu'elle pouvait légitimement faire pour l'intérêt général doit être sanctionnée par le juge administratif. Sans décision définitive d'une juridiction administrative, il n'y a pas d'abus ou d'excès de pouvoir. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est uniquement le juge qui doit dire que finalement, la victime a raison de parler d'abus de pouvoir. Les cinq cas qui englobent les abus de pouvoir, les excès de pouvoir sont, premier cas, le vice d'incompétence de l'auteur de l'acte contre lequel on saisit le juge administratif d'une requête pour excès de pouvoir. On est en train de considérer, alors, la victime considère que celui qui a pris la décision administrative n'est pas normalement habilité à prendre cette décision-là. Donc, cette personne qui a pris la décision a dépassé ses droits. Il a fait plus que ce que la loi lui reconnaissait le pouvoir de faire. On dira qu'il y a eu excès de pouvoir ou il y a eu, en français très simple, abus de pouvoir. Donc, chaque autorité administrative a une limite de décision. La loi a prévu ce que vous pouvez faire en tant que policier, en tant que gendarme, en tant que juge, en tant que ministre, en tant que directeur de cabinet. Tout le monde a une limite. Et quand vous dépassez cette limite-là, parce que vous vous croyez tout puissant, on se rappelle de certains petits chefs, des chefetons, comme on les appelle, qui, en raison de leur appartenance au pouvoir central, peuvent se permettre de prendre toutes les décisions à leur guise. Un juge va enlever cette décision-là pour abus de pouvoir ou excès de pouvoir. Deuxième situation. C'est le vice tiré du défaut de motivation de l'acte administratif que l'on conteste. Il s'agit du fait que l'autorité ait pris une décision, surtout de sanction ou de refus d'une demande, sans avoir justifié la raison de sa décision. Car le principe veut que les destinataires des décisions administratives disposent d'une information suffisante pour juger de l'opportunité de la décision. Lorsque je dépose un dossier et qu'on dit on ne peut pas me légaliser le dossier, on doit pouvoir m'expliquer pourquoi on ne doit pas me légaliser le dossier. L'agent de la mairie ne va pas se contenter de me dire on ne va pas légaliser, puis c'est tout. Il n'est pas là pour dire ce qu'il veut faire. Il est là pour faire ce que la loi l'autorise à faire. Et s'il ne peut pas faire signer par le maire le document, il doit expliquer, il doit justifier. Et la justification doit être légale. Lorsque vous voulez passer quelque part et que le policier dit non, cela doit être justifié par une raison. Et il a l'obligation de vous expliquer pourquoi. Ce n'est pas parce qu'il est en uniforme qu'il doit se prendre pour le bon Dieu sur terre. Il doit pouvoir expliquer. Et si le sens est bon, tant mieux. Si le sens est mauvais, on pourrait recourir à un juge pour qu'on parle d'abus de pouvoir. Troisième situation, c'est le vice de procédure qui a été suivi ou qui n'a pas été mis en place pour prendre l'acte reproché. En effet, si l'on organise ou si l'on doit suivre une procédure, celle-ci doit être respectée. Si ce n'est pas le cas, elle ne doit pas priver les usagers d'une garantie qui aurait dû en découler. Parfois, dans la loi, on vous dira, par exemple, je donne un exemple, que c'est un régime informatif, c'est-à-dire que vous informez simplement l'autorité que vous allez faire quelque chose. Ce n'est pas un régime d'autorisation. Et donc la procédure n'est pas celle qui permet d'avoir une autorisation, mais c'est elle, celle qui permet d'informer simplement. Et alors, si on doit vous interdire ce que vous, ce pourquoi vous faites une information, la raison doit être véritablement juste et importante, au point que la motivation doit aller dans le bon sens du vivre ensemble. Sinon, il y aura un abus de pouvoir. Quatrième, le vice tiré de l'erreur de droit, qui est la situation où l'administration s'est trompée dans l'application de dispositions légales ou réglementaires auxquelles elle était soumise. Tout simplement, l'autorité publique a pris le mauvais sens du droit et en a fait une interprétation erronée. Cela peut arriver, de mauvaise ou de bonne foi, certes, mais l'autorité est une personne. Et il faut qu'elle se rende compte qu'elle peut faire des erreurs de droit. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'un juge administratif est là pour pouvoir trancher. Et dans cette situation-là, on parlera de l'abus de droit, de l'abus de pouvoir, pardon. Enfin, le dernier cas, c'est le vice d'erreur, erreur de fait. Quand l'autorité publique a dénaturé les faits pour prendre sa décision, l'autorité a juste commis une erreur de fait, une mauvaise appréciation de ce qui s'est passé, une mauvaise lecture de ce qui a justifié sa réponse. Ce qu'il a cru voir, ce qu'il a cru comprendre n'est simplement pas cela. Or, il a fondé sa décision sur cette erreur-là. Et donc, on doit pouvoir parler là également de l'abus de pouvoir. À ces cas d'abus de pouvoir, donc à ces cinq cas d'abus de pouvoir, il faut ajouter le détournement de pouvoir qui concerne les cas où l'administration utilise un pouvoir dans un but différent de celui qui lui a été confié. Volontairement ou involontairement, on utilise l'outil que la loi vous donne pour faire ce que la loi ne vous permet pas. Il n'y a pas abus de pouvoir parce que vous n'avez pas le pouvoir. Mais il y a détournement de pouvoir. Mais dans le concret, ça revient au même. Puisque vous avez outrepassé vos compétences, vous avez dépassé ce qui vous était autorisé à faire. D'ailleurs, ce que vous n'avez même pas le droit de faire pour faire autre chose. Et dans ce cas-là également, la loi considère que vous n'êtes plus dans vos prérogatives. Il faut donc qu'on vous arrête pour que le vivre ensemble soit respecté.
I've got dreams, dreams to remember. I've got dreams, dreams to remember. Honey, I saw you there last night. Another man's arms holding you tight. Nobody knows what I feel inside. All I know, I walked away and cried. I've got dreams to remember. Listen to me.
I've got dreams to remember.
I know you said he was just a friend, but I saw him kiss you again and again. These eyes of mine, they don't fool me. Why did he hold you so tenderly? I've got dreams.
dreams to remember. Listen, honey.
I've got dreams.
Rough dreams. You to stay. I still love you anyway. I don't want you to ever leave. Girl, you just satisfy me. Ooh-wee. Yeah. You said he was just a friend, but I saw you kiss him again and again. These eyes of mine, they don't fool me. Why did he hold you so tenderly? I've got dreams.
L'abus de pouvoir peut entraîner des répercussions graves, notamment la perte de confiance, les conflits internes, les risques juridiques, financiers ou réputationnels. Mais la sanction la plus utilisée est tout simplement l'annulation de l'acte constitutif de l'abus de pouvoir. Mais le code pénal a pris à son compte de sanctionner certains de ces cas d'abus de pouvoir qui ont des particularités telles que nous voudrions en parler ici et maintenant. L'article 506 du Code pénal du Togo qualifie implicitement d'abus de pouvoir le fait pour les autorités politiques, administratives, parlementaires, judiciaires, militaires, et les magistrats ou tout fonctionnaire détenteur d'une parcelle de l'autorité publique de se concerter pour influencer, détourner ou s'opposer à l'exécution des lois. Et l'article 507 prévoit deux causes pour cela, notamment, première cause, quand les magistrats de l'ordre judiciaire ainsi que les juges administratifs se sont immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif ou réglementaire en arrêtant ou suspendant illégalement l'exécution des lois et règlements ou tout simplement en édictant des règlements. Rappelez-vous que nous avons dit en début d'émission que c'est les dispositions de la loi même qui permettent de voir comment on arrête le pouvoir. Qui fait quoi et comment on fait? La loi doit avoir tout prévu. Et c'est d'ailleurs là où se vérifie l'intérêt d'avoir une constitution très lisible et très cohérente. Dans une constitution, chaque pouvoir à ses compétences, à ses pouvoirs et à ses contre-pouvoirs. Le magistrat qui appartient à l'ordre judiciaire, au pouvoir judiciaire, ne va pas s'amuser, par exemple, à édicter des règlements, à créer des textes. En principe, il doit interpréter et exécuter ou appliquer. Voir si l'exécution est conforme à la loi. Ça doit être ça, son domaine. Mais s'il dépasse ce domaine-là pour arrêter, suspendre de façon illégale l'exécution des lois ou des règlements, ou si lui-même il fait des règlements, alors ce magistrat-là tombe non pas simplement sous le coup d'un abus de pouvoir pour dire qu'on va annuler l'acte. Ce ne serait pas simplement ça. Mais en plus, le code pénal pourrait alors sévir. Rappelons-nous que le code pénal a essentiellement deux sanctions, la prison et les amendes. Et donc, il ne s'agirait pas contre ce magistrat-là d'annuler simplement l'acte et de prendre peut-être une mesure disciplinaire. Non, le code pénal pourrait arriver. Première cause. Deuxième cause, quand les ministres, les parlementaires, les fonctionnaires et agents détenteurs d'une parcelle de l'autorité administrative se sont immiscés dans les fonctions judiciaires en prononçant des condamnations pénales ou civiles ou en donnant des injonctions ou défenses aux cours et tribunaux. C'est-à-dire que si on peut arriver à prouver qu'un ministre a influencé, un ministre a donné l'ordre de prendre une décision et que ça a été fait, on peut considérer que ce ministre-là a fait un abus de pouvoir qui va être puni sur le plan pénal. Ministre, parlementaire, fonctionnaire, agent public, etc. Ils ne doivent pas influencer une décision de justice. Ils ne doivent pas prononcer des condamnations pénales ou civiles. Ce n'est pas leur rôle. Ça revient au pouvoir judiciaire. Autant nous avons dit que le pouvoir judiciaire ne peut pas faire les lois, ne peut pas faire les règlements, autant le pouvoir législatif ou le pouvoir exécutif ne doit pas en principe donner des injonctions, donner des ordres pour qu'un juge prenne une décision. Si on arrive à se rendre compte de la chose, ça tombe sous le coup du code pénal. Enfin, l'article 508 punit tout agent détenteur de l'autorité publique qui ordonne ou requiert l'emploi de la force publique hors des cas prévus par la loi ou pour faire échec à l'exécution de la loi, d'une décision ou d'un mandat de justice. Là encore, c'est très clair. L'article 508 interdit à l'autorité publique d'ordonner, de requérir l'emploi de la force publique. La force publique, c'est exercé par les forces de l'ordre. Donc, il vous est interdit. Ce n'est pas parce que vous êtes préfet, vous êtes maire, vous êtes ministre, vous êtes député, vous êtes etc., que vous avez le pouvoir de demander à la police de prendre une décision ou d'exécuter ou de cesser d'exécuter une décision de justice. Vous avez votre fils qui a volé et on vient l'arrêter. Vous vous dites, parce que vous êtes ministre, il est interdit de toucher à votre enfant. La loi l'interdit. Dans ces situations particulières prévues par le code pénal, la sanction n'est pas une sanction disciplinaire ou une sanction administrative, mais plutôt une sanction pénale, constituée par une peine d'emprisonnement qui va d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 100 000 à 500 000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines, sans préjudice des peines applicables en cas de complicité contre la sécurité de l'État, sauf si conformément à l'article 511 du Code pénal, l'auteur est un fonctionnaire ou un agent public qui n'a agi que sur ordre de son supérieur hiérarchique, donné dans les limites de leurs compétences, c'est-à-dire que ce n'est pas vous qui avez décidé, mais c'est votre patron qui vous a donné l'ordre de donner l'ordre. Et dans ce cas, c'est votre patron qui a de problème. Si vous êtes respecté, vous êtes resté uniquement dans votre rôle d'exécutant. Et donc, c'est votre patron. Vous êtes par exemple un policier et votre commissaire vous a donné l'ordre d'aller faire. Et que vous êtes allé le faire, en réalité, ce n'est pas votre faute. C'est la faute à votre supérieur. Et normalement, les sanctions vont tomber sur votre supérieur. Tout est fait de façon à ce que chacun se sente protégé, chacun se sente à l'aise, chacun reconnaisse sa partition dans le développement du pays. On demande aux citoyens d'être civiques, d'être moral, d'être correct. Autant on demande
à l'autorité, qui est d'abord un citoyen avant d'avoir la peau de l'autorité, d'être vertueux, de respecter les tests et de faire tout dans l'intérêt supérieur de la nation, supérieur du pays. Une invitation à tous les hommes politiques, de quelque bord qu'ils soient, pour que quand vous avez à exercer la chose publique, le pouvoir public, que cela se fasse dans le respect des normes, dans le respect de la loi. Nous, le respect des temps nous oblige à arrêter l'émission pour aujourd'hui. Nous vous convions à une prochaine séance. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.